franceinter.fr.
Notre invité Léa Salamé est député Les Républicains. Il est chargé de l'organisation de la primaire de la droite et du centre.
Bonjour Thierry Soler.
Bonjour.
On va parler des primaires bien sûr, mais d'abord vous êtes parti en croisade cette semaine, en croisade contre la salle de sport de Salah Abdeslam, l'un des auteurs des attentats de Paris qui est actuellement incarcéré à Fleury-Mérogis. Vous avez même écrit une lettre au garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Quel est le problème ?
Je suis pas parti en croisade contre la salle de sport, je suis parti en croisade contre l'état de nos prisons. Contre le fait qu'à Fleury-Mérogis, il y a près de deux fois plus de détenus que de prévus. Que les nouveaux arrivants dans cette prison, on leur donne un matelas à même le sol. Mmh. Dans ce contexte-là, j'ai visité le quartier d'isolement, j'ai vu les conditions dans lesquelles était détenu Salah Abdeslam, qui sont des conditions exceptionnelles et c'est bien naturel.
Est-ce que vous pouvez nous décrire avant de
il est vidéo protégé.
Oui.
Sa cellule individuelle, bien sûr.
Il est placé à l'isolement,
on le rappelle. Il est placé à l'isolement, seul dans une cellule. Plusieurs caméras de vidéo surveillent en permanence dans sa cellule ses faits et gestes. Il faut bien sûr qu'il ne puisse pas attenter à sa vie. Les Français ont le droit au procès de Salah Abdeslam. Il a une cellule de remplacement, j'imagine, quand la première est fouillée. Et puis, il y a une cellule qui est mobilisée également pour les écrans de contrôle.
Après, et puis, il y a une cellule
qui a été transformée en salle de sport. Moi, j'ai pas parti en croisade contre ça. J'ai écrit à Jean-Jacques Urvoas parce que c'est mon travail pour demander au ministre de la justice quelle est la raison qui a justifié cela.
Alors après, il y a la raison. La raison, c'est que c'est prévu par la loi. C'est que proposer des activités sportives pour tous les détenus, c'est une obligation, il me semble, à moins que je me trompe.
Eh ben, c'est très bien, Léa Salamé, qu'on mette ce débat sur la table. Parce que quand vous avez une prison qui est deux fois plus remplie que prévu, croyez-moi, les détenus, ils n'ont pas accès au sport. Ils n'ont même pas accès à un vrai lit, les détenus, en ce moment. Ils ont un matelas par terre. Alors, vous voyez, moi, je veux bien qu'on me donne la vérité en me disant « Ah, il est prévu qu'on puisse faire du sport ». La vérité, c'est qu'aujourd'hui, à Fleury-Mérogis, quand vous êtes incarcéré et que vous êtes 4700 dans cette prison, la salle de sport, vous ne la voyez jamais.
La vérité aussi, c'est que les cellules à l'isolement, et c'est le cas d'Abdeslam, il n'y a pas de surpopulation dans les cellules à l'isolement, oui ou non. Et que la vérité, c'est qu'Abdeslam, on ne peut pas lui dire « va faire du sport » avec les autres détenus.
Non, mais ça, bien
donc,
sûr.
Ils mettent, honnêtement, dans vous avez l'impression que c'était impérieux comme question, comme débat, de poser la question de s'il a un rameur pour faire du sport à
non,
côté.
Non, c'est pas la question du rameur. Ah. La question, c'est la mise à disposition d'un équipement dans une prison qui est surpeuplée, où les gens n'ont bien sûr pas accès à des salles de sport. Ils n'ont même pas accès à un vrai lit. Deuxièmement, dans les quartiers à l'isolement, il y a des salles de sport qui sont prévues pour les détenus à l'isolement. Ils peuvent y aller à tour de rôle, parfois d'ailleurs ensemble, hein, en fonction de la décision du juge, mais on ne voit pas un détenu qui, pour lui tout seul, se voit affecter cette salle. Moi, j'ai demandé, et je vais vous dire, cette question, je l'ai posée à l'administration pénitentiaire, elle n'a pas su me répondre, et quand je lui ai demandé ce qu'il en pensait, ils m'ont levé les yeux au ciel, les gardiens. Tellement que même, ils étaient étonnés de voir ce traitement-là. Donc, vous voyez, vous pouvez pas reprocher aux parlementaires de faire leur travail, c'est-à-dire d'essayer de contrôler ce qui se passe dans notre pays, dans nos administrations, et ensuite d'attendre une réponse que j'attends toujours, d'ailleurs, de la part de Jean-Jacques Urvoas.
Bien. 8 mois après les attentats du Bataclan, un rapport très attendu est remis aujourd'hui. Rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les éventuelles failles et ratés du renseignement. Un des députés membres de cette commission dit qu'il a été atterré de se rendre compte du manque de coordination entre les services de renseignement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé ?
Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a un premier sujet, c'est chez nous en France. Nos services de renseignement sont éclatés. Quand vous êtes entre la DGSE, la direction générale...
La faute à qui, Monsieur Soler ?
Ah ben la faute a depuis 20 ans ou 30 ans.
À la grande réforme de Nicolas Sarkozy.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse dire ça comme ça. Je pense que ça fait 20 ou 30 ans.
Je pense que c'est ce que disent les experts du renseignement.
Non, je ne crois pas. J'entends pas ça, moi. J'entends que depuis 20 ans, on a un problème. Ça fait 20 ans qu'on le dit. Ça fait 20 ans que ça ne se règle pas. Que nos services de renseignement sont trop éclatés. Je vous rappelle, par exemple, les renseignements généraux de la préfecture de police de Paris ont des compétences sur le territoire francilien. Mais dès qu'on en sort, eh ben, ça devient la DGSI. Puis deuxième grand sujet, c'est l'Europe. L'Europe qui a tous les mots en ce moment. Mais l'Europe en matière de renseignement, elle ne fonctionne pas non plus. Nous avons vu d'ailleurs, concernant Salah Abdeslam, le manque de coordination entre les services de renseignement belges et les services de renseignement français.
Est-ce qu'on a pris les mesures suffisantes ?
Mais écoutez, je n'en sais rien, c'est au gouvernement qu'il faut poser cette question. Mais vous savez, moi, au lendemain des attentats, j'avais demandé un audit à Manuel Valls. Je ne veux pas qu'on soit dans une logique... C'est pas un problème politique entre la gauche et la droite, cette affaire. C'est un problème d'efficacité. Quand la France est frappée par des attentats d'une telle ampleur, on ne doit pas faire de politique. On doit dire, voilà, où il y a des trous dans la raquette, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Et puis on cède, on s'outille avec un cabinet extérieur si besoin est, et on regarde dans tous les dispositifs d'État ce qui ne fonctionne pas. Mes collègues parlementaires ont essayé de faire ce travail via cette commission d'enquête. Elle va, bien sûr, ses conclusions sont très attendues, très regardées.
Ce week-end, le Conseil national des Républicains a validé le projet commun pour la présidentielle. C'est le projet de qui, en fait ? C'est le projet des Républicains ou Nicolas Sarkozy ?
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat réel sur le sujet. La primaire, ce n'est pas le choix de la robe, de la couleur de la robe ou le choix de la couleur de la cravate des candidats. On ne choisit pas simplement un homme ou une femme. On choisit bien sûr son projet derrière. sa méthode, son calendrier.
Alors ça sert à quoi de voter pour un programme aujourd'hui qui va tenir que pour 5 mois en fait? Ça sert à quoi de voter pour un programme?
Le programme qui a été voté par le Conseil national, c'est la base programmatique qu'a les Républicains à un an de la présidentielle.
Oui, mais Alain Juppé immédiatement a dit je ne me reconnais pas dans ce programme.
Mais il ne me reconnaît pas en tout d'ailleurs dans ce programme, c'est pas, il n'a pas tout balayé. Moi-même, il y a des choses dans ce programme qui ne me vont pas. Je pense à la réintroduction du cumul des mandats. Moi, j'ai voté contre, j'ai voté pour la loi qui restreint le cumul des mandats. Ça serait un retour en arrière absolument stupide de faire cela. J'en suis convaincu.
Et pourtant, Nicolas Sarkozy l'a inscrit dans ce programme que vous avez voté. Mais ça sert à quoi ce programme, en fait?
Mais je vais vous dire, Léa Salamé, qu'est-ce que vous me diriez si, à un an de l'élection présidentielle, le Parti des Républicains ne travaillait pas à cette base programmatique? Je vous rappelle que les socialistes ont fait pareil. Martine Aubry avait fait travailler la gauche en 2011. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, en 2012, le parti avait travaillé à un projet politique. D'accord. C'était d'ailleurs Bruno Le Maire.
C'est pour faire travailler les cadres du...
Mais c'est notre job. Un parti politique, ça réfléchit, ça se met d'accord sur des idées. Et puis après, maintenant, c'est très nouveau pour nous. Ça vous fait rire, vous.
Ça fait rire Dominique Seux.
Non, mais je vois ça.
Le programme qui sert à rien, qui n'engage personne.
La primaire, c'est nouveau pour nous. Et pour la première fois, c'est beaucoup plus démocratique, ce ne sont pas des militants, un bureau politique à Paris qui choisit le candidat, ce sont nos électeurs.
Oui.
Et bien sûr, quand on choisit le candidat, on choisit son programme, ses priorités, dans le détail, et c'est ça qui compte.
Et dites-moi, à l'automne, on saura qui est vraiment candidat, qui aura obtenu les parrainages, on saura exactement combien il y en a, il devrait y en avoir entre 5 et 6 à peu près qui auront les parrainages. Du coup, les débats pour les primaires, on va avoir quoi? On va avoir 5 ou 6 personnes derrière leur petit pupitre. Que des hommes en costard cravate, c'est ça qui va y avoir?
Mais ça, c'est pas à moi de le dire, c'est aux parrains qui parrainent.
Oui, mais manifestement, c'est ça qui se dessine.
Bah, on verra,
c'est un problème ou pas? Manifestement, elle les a pas les parrainages et ça va être 5 ou 6 hommes.
Si Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas ses parrainages, ça voudra dire des choses. Ça voudra dire que d'abord, elle est la seule candidate aujourd'hui à la candidature, et si elle n'arrivait pas à avoir ses parrainages, il y aura plein de conclusions à en tirer. Est-ce que
qu'est-ce
que
vous en pensez-vous?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, la droite, c'est un parti où il y a beaucoup d'hommes qui sont souvent d'ailleurs pas tout jeunes et que c'est un problème. Et d'ailleurs, je suis heureux de voir que les Républicains, vous voyez, ils n'ont pas fait que le programme du parti, et travaillé à des investitures où la parité devient beaucoup plus la réalité.
Cet été, sur les plages, Nicolas Sarkozy sera président des Républicains ou candidat à la primaire?
Ça dépend quelle date il annonce sa candidature. Ce débat-là, je vais vous le dire dans la plus grande clarté, il a été tranché et voté à l'unanimité. Nicolas Sarkozy...
Donc il sera président des Républicains sur les plages.
Ça dépend quel jour il annonce sa candidature. Au maximum, le 26 août, il a démissionné. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être président du parti et en même temps candidat à la
primaire. Thierry Solaire était notre invité. Très belle journée à vous.
Bonne journée.
Merci à vous, Léa Salamé.